Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présenté par Sylvie Rosier.
Après une année 2023 marquée par l'organisation de la Coupe du Monde de rugby en France, l'année 2024 s'annonce tout aussi sportive. Les Jeux Olympiques de Paris, cet été, en seront le point d'orgue. L'élimination prématurée du 15 de France lors de la Coupe du Monde de rugby, les bleus sur le toit de la planète handball, presque parfait des hommes de Didier Deschamps, Novak Djokovic, entré dans l'histoire, l'année 2023 a été mouvementée. Entre les Jeux Olympiques en France, l'Euro de football et les événements habituels, l'an 2024 s'annonce également marqué par du sport. Si football et politique font rarement bon ménage, force est de constater qu'ils sont indissociables, surtout en Europe. Preuve en est durant ce mois de juin, jusqu'à quelques jours près, l'Euro de football succède dans l'actualité aux résultats des élections européennes. Un hasard du calendrier qui fait bien les choses, car à travers l'histoire, la Coupe d'Europe des Nations et l'Union Européenne ont toujours entretenu des liens étroits. Fondateur du média FC Géopolitique, sur les réseaux sociaux, le journaliste et auteur Kevin Vézière connaît cette question. C'est un prolongement de la construction européenne pour Kevin Vézière, notamment sur le volet politique et diplomatique. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la volonté des pays européens, surtout à l'Ouest, est de mettre en place des solutions pour s'unir, pour éviter de répéter les erreurs du passé. La présence de l'Ukraine à l'euro peut-elle avoir une influence sur son processus d'adhésion à l'Union européenne? Je ne pense pas, nous dit-il, mais la présence de l'Ukraine a quand même un impact, car cela intègre le contexte du conflit russo-ukrainien dans l'Europe, ou en tout cas à ses portes. Et c'est aussi une manière de donner une autre image du pays que celle de la guerre. La question intéressante pour l'Euro 2024, c'est le cas de la Géorgie, où il y a des manifestations politiques avec des joueurs de la sélection qui prennent position pour les manifestants pro-européens ou tout du moins opposés à la loi pro-russe. On sait que lors de grandes compétitions ou de championnats, les joueurs peuvent parfois s'afficher et apporter un message.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
Les candidats aux législatives avaient jusqu'à ce mardi dernier à 18h pour déclarer leur candidature ou se désister. Dans le Rhône, on assistera à 7 duels, 5 triangulaires et une quadrangulaire. Des 104 candidats du premier tour, il n'en reste que 33. Une triangulaire est sortie des urnes au soir du premier tour des élections législatives dans le Beaujolais. Pour la 9e circonscription, les électeurs ont placé Patrick Louis en tête. Le candidat d'Union des droites, soutenu par le RN, a été crédité de 35,4% des suffrages. Il est en ballottage très favorable face au député LR sortant Alexandre Portier à 10 points derrière, 25,4%. C'est dans ce contexte que le candidat de la gauche, Jean-Henri Soumirul-Artigue, arrivé en 3e position, 23,25%, a suivi les consignes et annoncé le retrait de sa candidature. Au bout du suspense, il n'y aura finalement pas de quadrangulaire au second tour de l'élection législative dans la 8e circonscription du Rhône. Dominique Desprats, le candidat Modem Ensemble, a finalement renoncé et s'est retiré de la course. Pourtant, arrivé 3e au premier tour avec 21,18% des voix, il devait batailler ce dimanche avec Jonathan Géry du RN, 33,46%, Anne Rimbaud du NFP, 22,75%, et la députée sortante LR, Nathalie Sœur, 20,66%. Dominique Desprats a finalement décidé de se retirer pour faire barrage au candidat RN dans cette circonscription qui regroupe notamment les cantons de Tarare, Tizy-les-Bourg ou encore l'Arbrelle, mais aussi une partie de la métropole de Lyon et Cully. Pour rappel, le RN est arrivé en tête avec 33,46% du suffrage, portant une première place, Jonathan Géry. La candidate socialiste du Nouveau Front Populaire, Anne Rimbaud, adjointe à Tizy-les-Bourg, a recueilli 22,75% des voix, un exploit dans ce bastion de la droite. Qualifiée pour le deuxième tour, elle était donc talonnée par le candidat Ensemble, le Modem, Dominique Desprats, 21,18%, suivi en quatrième de la sortante LR Nathalie Serre, 20,66%. Ce seront donc bien trois candidats qui se disputeront la circonscription dimanche prochain. Lancement du plan d'action du PAT Saône-Beaujolais et de son conseil local de l'alimentation ce lundi 1er juillet à Belleville-en-Beaujolais. Un temps fort qui permet de célébrer la mise en route du plan d'action du PAT, entouré de l'ensemble des structures et personnes souhaitant prendre part au projet. Les détails du rendez-vous avec Jérémy Thien, vice-président de la communauté commune Saône-Beaujolais, en charge de la ruralité, de la viticulture, de l'agriculture et de la forêt, et maire de Julliers. Première question, qu'est-ce qu'un PAT ?
Alors un PAT, c'est un projet alimentaire territorial. C'est un acronyme pour dire tout simplement qu'on souhaite travailler avec les collectivités, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs de l'alimentation de notre territoire pour remplir un objectif simple, c'est comment on fait pour amener plus d'alimentation locale dans l'assiette des habitants de ce territoire.
Les projets alimentaires territoriaux ont l'ambition de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation.
Oui, bien sûr, on travaille avec tous les partenaires institutionnels, hein. L'État, la Chambre d'agriculture, les chambres de commerce, chambres de métiers, évidemment les organisations professionnelles et puis en direct avec les producteurs, les agriculteurs, les commerçants, etc.
Avec une phase de concertation.
Ça a été une phase de diagnostic très importante. Hein. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille sur ce projet alimentaire territorial. Avant de savoir comment on fait pour amener plus de nourriture locale dans l'assiette des consommateurs, il faut déjà savoir ce qu'on produit sur notre territoire et quelles sont les capacités à fournir cette nourriture locale.
L'élaboration d'un diagnostic, d'une stratégie et d'un plan d'action.
On a tiré des projets très concrets. Hein. Les premiers projets ont vu le jour dans les mois qui ont vu le début de l'année 2024. Notamment, je le disais tout à l'heure, à travers du speed dating. C'est une formule qui est très efficace, qui marche très bien. On met face à face des acheteurs de l'alimentation et des producteurs ou des transformateurs. Et ils ont une matinée complète pour se rencontrer, pour échanger et pour faire des affaires, par exemple.
Les enjeux de demain.
Les enjeux d'un PAT, c'est d'abord évidemment une dimension économique. C'est aussi comment on peut préserver la vocation agricole d'un territoire, accompagner les agriculteurs sur la transmission, par exemple, de leurs entreprises. Il y a des enjeux qui sont des enjeux sociaux, sociétaux. Comment on lutte contre la précarité alimentaire? Comment est-ce qu'on amène dans la population une éducation à une alimentation saine? Il y a des enjeux environnementaux. Hein. Aujourd'hui, ce sont des enjeux qui sont très transversaux. Donc, comment aussi on préserve la ressource en eau, comment on préserve la qualité des terres, la qualité agronomique des terres et comment on accompagne nos agriculteurs vers la transition écologique.
La restauration collective, un point d'appui pour initier la transition vers une alimentation durable dans les territoires.
C'est un des leviers essentiels. La restauration hors foyer, particulièrement la restauration collective, on voit bien, ce sont des millions de repas par an qui sont servis, que ce soit dans les lycées, les collèges, nos cantines, les EHPAD, les hôpitaux. Toute la restauration hors foyer est là où on a le plus de leviers, nous, communauté de communes, c'est évidemment dans nos cantines scolaires. Et donc on souhaite, à travers une politique spécifique d'accompagnement des cantines scolaires vers plus de local, eh bien se servir de ce levier pour répondre à ces objectifs.
Le foncier, préservation et accès aux terres agricoles.
Alors la préservation du foncier, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà depuis longtemps, puisqu'on avait mis en place à titre expérimental avec la Chambre d'agriculture un dispositif pour faciliter la transmission des exploitations viticoles. Ça fonctionne, c'est efficace, on est en train de l'élargir à l'ensemble du territoire, à l'ensemble des activités agricoles pour faciliter ces transmissions. Nos agriculteurs, on le sait, sont vieillissants. Voilà, mais d'ici une dizaine d'années, on aura au moins 50% de nos exploitants qui seront partis à la retraite. Il faut qu'on favorise l'installation de jeunes en leur offrant un cadre favorable pour le développement de leur activité.
Donc là, c'est déjà un bilan sur ces 3 années écoulées, c'est bien ça, si j'ai bien compris,
hein. C'était à la fois un bilan, c'était tracer des perspectives et c'était susciter aussi de la réflexion, des idées chez l'ensemble des acteurs. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on avait à la fois le monde agricole, le monde économique, le tourisme, parce qu'on n'a pas parlé de gastronomie, mais on pourrait aussi parler de gastronomie, ça a du sens dans notre territoire. Bref, l'ensemble des acteurs de l'alimentation, comment on fait ensemble, quelles sont les bonnes idées, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour augmenter cette part locale dans l'assiette de nos consommateurs.
Et le lancement donc du Conseil local de l'alimentation, si j'ai bien.
Voilà, le Conseil local de l'alimentation, on veut que ce soit une instance permanente de réflexion et d'échange thématique, c'est-à-dire qu'on ne va pas se réunir systématiquement comme on l'a fait aujourd'hui en grand format et en grand messe, mais on va par exemple choisir un jour de parler de la viande, un autre jour du lait, un autre jour des différents produits qui sont sur notre territoire, peut-être du vin aussi, parce que n'oublions pas qu'on est quand même un territoire viticole. et que la viticulture et la gastronomie, donc l'alimentation, ça va plutôt bien ensemble.
Le PAT est un outil adapté pour mettre en mouvement une volonté politique. Un projet alimentaire territorial doit répondre à deux enjeux principaux, le bien manger et le bien produire. S'appuyer sur un diagnostic partagé sur la production agricole locale et le besoin alimentaire, quantité, qualité. Un PAT consiste à coordonner un ensemble d'initiatives locales dans une stratégie globale et transversale à l'échelle du territoire. La Croix-Rouge s'est équipée d'une cuisine sur roue, un food truck solidaire en direction des zones blanches rurales dans le Beaujolais. Une démarche participative pour l'équilibre nutritionnel des personnes, une alimentation pour petit budget et la diversification alimentaire. Avec nous, un membre de l'Union locale de la Croix-Rouge, Beaujolais-Val-de-Saône.
Noël Vacher, je suis à la Croix-Rouge de l'UL Beaujolais-Val-de-Saône, à Villefranche, et plutôt sur Beaujeu, puisque j'ai l'équipe de Beaujeu en responsabilité. À Beaujeu, où on a ouvert une boutique solidaire l'année dernière, et d'où est né le projet Cuisine sur roue. Donc, suite à une réponse à un appel à projet de l'État, et nous avons été sélectionnés. L'idée, donc, c'est d'animer des ateliers de cuisine dans une remorque qu'on a fait aménager comme un food truck et d'aller à la rencontre des personnes en situation de précarité, des personnes isolées, plus particulièrement sur le secteur du Haut-Beaujolais, secteur où les gens sont éloignés de tout, où il n'y a pas de moyens de transport, où il y a peu de commerce à disposition, donc des personnes qui sont éloignées des bons produits. Ces ateliers, on veut les construire avec d'autres acteurs du territoire, les associations, les autres acteurs de la solidarité comme le Secours Populaire, Resto du Cœur, etc. En lien avec les collectivités aussi locales, mairies, départements, CCSB, etc.
À la recherche de partenaires.
Donc, voilà, nous sommes
toutes les communes qui veulent.
Voilà, actuellement, on est dans une phase encore de recherche de partenariats, de mise en route. On a démarré 2-3 ateliers déjà, mais là on est vraiment dans une phase encore de montage, on va dire, du projet qui j'ai envie de dire, évolue un petit peu en fonction aussi de ce qu'on fait. On le construit encore en démarrant. On avait prévu des choses, ça se passe pas toujours tout à fait comme on avait prévu. Du coup, on repense les choses, on revoit notre feuille de route, en fait, et puis on met en place petit à petit.
Comment se fait l'approche avec ses concitoyens ?
Alors, on arrive effectivement à un endroit qui a été mis à notre disposition par la commune, par la mairie, parce qu'on leur demande une prise électrique pour nous brancher et si besoin, une salle où on puisse s'installer aussi pour éventuellement faire des préparations ou pour se mettre à l'abri tout simplement s'il ne fait pas beau. Et on accueille des personnes, alors ça peut être des personnes qu'on a invitées, donc ça peut être sur inscription par exemple des personnes très particulières qu'on a décidé d'inviter, ou ça peut être ouvert de façon un peu plus large. Surtout dans les premiers ateliers, ce qu'on veut c'est faire connaître nos ateliers, notre système. Donc l'idée c'est un petit peu d'ouvrir, pas uniquement aux personnes en situation de précarité ou autre, mais j'ai envie de dire tout curieux qui se dit pourquoi la Croix-Rouge est là avec cette remorque, et ben on les invite à venir nous rejoindre, à participer, à partager, et dans l'avenir on verra si on doit limiter le nombre de places, faire moins de publicité ou au contraire plus pour faire venir les gens.
Comment sont organisés ces ateliers pour les personnes accueillies ?
Et l'idée c'est qu'après on déguste tous ensemble ce qui a été cuisiné et les gens repartent avec des petites recettes, des astuces, etc. Et les quelques ateliers qu'on a fait jusqu'à présent ont eu du succès et les gens globalement sont repartis contents en disant quand est-ce que vous en refaites un autre.
Les ateliers Cuisine sur roue, un food truck solidaire en direction des zones blanches rurales pour lutter également contre la précarité alimentaire. Un appel de la Croix-Rouge, tous les bénévoles sont les bienvenus.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.